On rejoint sans plus attendre Madame Sylvie Lauzon. Madame Lauzon, vous êtes là?
Ben oui, je suis là. Bonjour François.
Bonjour Madame Lauzon, ça va bien?
Ça va très bien, et vous?
Oui, alors difficile de se plaindre aujourd'hui avec le temps qui fait, sauf peut-être à cause de la circulation au centre-ville
oui,
de Montréal.
On se croirait presque en Espagne.
Ouais, mais on ne rentrera pas dans ce sujet-là. Madame Lauzon, j'ai été surpris d'apprendre que dans tout le Québec, il n'y a qu'un seul hôpital qui s'occupe de soins pédopsychiatriques exclusivement, s'entend celui de Rivière-des-Prairies.
En fait, c'est un hôpital spécialisé. C'est le seul hôpital spécialisé en pédopsychiatrie parce que tous les hôpitaux généraux de la province sont tenus d'offrir des soins aux enfants en psychiatrie. Et donc, nous ici, c'est qu'on est un hôpital spécialisé là-dedans. On ne fait que de ça. Alors, c'est là où on a ici une richesse extraordinaire.
Et qui dit hôpital dit aussi fondation, œuvre caritative. Et dans le cas qui nous occupe, la Fondation des Petits Trésors.
Oui.
Petits Trésors. Qui, évidemment, soutient les activités de l'hôpital. Mais avant de parler de la fondation elle-même, parlez-nous un peu de la santé mentale chez les enfants. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de cerner c'est quoi? Et qu'est-ce
qui
est
en fait, parce qu'il y a quelque chose de très intangible dans la santé mentale. Et je me reporte, là, si on recule en arrière, on retourne dans le temps, il y a peut-être quoi, 30, 40 ans, on ne s'imaginait pas qu'un enfant pouvait vivre une dépression, qu'un enfant pouvait être anxieux. Donc, ce sont des concepts avec lesquels on est de plus en plus familier, mais ça demeure quand même abstrait. Et la santé mentale, en fait, on ne peut pas mesurer ça ou diagnostiquer ça avec une prise de sang. C'est plus simple, par exemple, pour certains troubles de santé physique, de voir directement c'est quoi la difficulté. En santé mentale, c'est pas le cas. Et puis, ce que je trouvais bien intéressant là-dedans, en fait, c'est que pour moi, c'est la dernière frontière en matière de santé. C'est-à-dire que si on a beau avoir une santé physique exemplaire, si ça fonctionne pas entre nos deux oreilles, ça ne fonctionnera pas plus loin. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à saisir, parce que c'est intangible, parce que on a l'impression que les gens qui en souffrent ont des drôles de comportements, que ce sont souvent des gens qui réagissent de façon exagérée à des situations habituelles. Alors, c'est pour ça qu'il y a tant de mauvaise presse et qu'il y a tant de tabous aussi, parce qu'on a tendance à cacher ça.
Oui, effectivement.
Encore aujourd'hui, d'ailleurs, les tabous sont un petit peu moins imposants qu'avant, mais c'est encore quelque chose, surtout quand c'est un enfant, on dirait que les gens ne veulent pas aller sur la place publique, ils veulent moins en parler, c'est moins évident. Et puis, un enfant étant un être en pleine croissance aussi, c'est pas simple d'imposer ça à un enfant que d'en parler publiquement.
Et en termes de diagnostic aussi, ça doit être quand même assez compliqué, puisque chaque enfant est quand même unique et on va pas empêcher un enfant d'avoir de la personnalité, juste pour le dire, il faut que tu ressembles à tout le monde tout le temps.
La frontière est difficile parce qu'il y a toutes sortes de symptômes qui se présentent, et ces symptômes-là peuvent être le résultat d'un concours de circonstances, d'une situation dans la vie de l'enfant, dans la vie de la famille, et ça va durer peut-être quelques jours, quelques semaines, mais ça peut arriver que les symptômes qui étaient subtils deviennent tout à coup plus prononcés. Donc, c'est difficile à diagnostiquer, même pour les médecins. Et quand on sait que 50% des maladies mentales commence à apparaître chez les enfants avant l'âge de 14 ans, c'est dire que c'est important d'être à l'affût, de les observer. Il y a de plus en plus aussi de comorbidités, c'est-à-dire que c'est rare qu'un enfant n'a qu'un seul diagnostic ou une seule problématique, il y en a plusieurs, donc qu'est-ce qui est le plus prédominant? Comment est-ce qu'on fait pour soigner ça? Parce que oui, on arrive à diagnostiquer, mais ensuite, il faut soigner. Et là aussi, en fait, tu sais, si on parle encore une fois de la prise de sang, il y a 100, il y a 150 ans, en fait, on n'arrivait pas à savoir ce qu'il y avait dans le sang, donc on n'arrivait pas à trouver des médicaments appropriés pour les maladies qu'on voulait traiter. On en est un petit peu là aussi avec le cerveau aujourd'hui. On sait de plus en plus de choses. On sait qu'il y a des neurotransmetteurs, qu'il y a des substances chimiques, mais l'équilibre de tout ça, on ne le connaît pas encore très bien. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Et c'est pour ça que c'est autant difficile à diagnostiquer qu'à soigner. Mais le pire, c'est que c'est le plus difficile à vivre, bien sûr.
Bon, il y a des maladies mentales qui sont évidentes. Là, je pense qu'un jeune qui fait une psychose, c'est aussi évident chez un jeune que chez un adulte.
Et ça arrive, ça arrive parfois très jeune.
Mais c'est quoi les maladies en émergence chez nos jeunes?
Ben en fait, en émergence, il y a au-delà de 300 diagnostics en santé mentale des enfants. On se doute que c'est pas d'une évidence. Et puis, quand on parle de comorbidité, ça veut dire que des fois, il y a un, deux ou trois ou quatre ou cinq diagnostics ensemble, ce qui vient rendre la situation encore plus complexe. En émergence, là, je dirais, en fait, les troubles du sommeil, c'est pas en émergence, mais les troubles du sommeil chez les enfants qui ont des troubles de santé mentale, ça les touche dans 80 % des cas. Si on parle d'un enfant là, qui... Un enfant, bon, j'utilise le mot normal, là, mais ne vous en formalisez pas. Pour moi, ça n'a pas une grande valeur. Là. C'est un enfant qui n'a pas de difficultés, disons. Chez ces enfants-là, il y en a 25 à 30 % qui vont mal dormir. Quand il y a un trouble de santé mentale associé, ça va jusqu'à 80 %. C'est donc dire que tout ce qui s'appelle effort thérapeutique, tout ce qui s'appelle même à la limite médication, va avoir beaucoup moins d'effet chez un enfant qui a cette problématique-là associée à la santé mentale. Ça, on en parle de plus en plus et on veut de plus en plus faire du sommeil chez l'enfant qui a un trouble de santé mentale un élément important dans le diagnostic, dans les rencontres avec les médecins, donc pour les diagnostics. Il y a beaucoup de... La dépression, en fait, il y en avait toujours. Il faut penser que 10 % des enfants de moins de 10 ans ont déjà eu des idées suicidaires. Ça vous donne une idée de l'importance de la chose. Les troubles anxieux, là, on ne parle pas d'une simple anxiété de performance, mais les troubles anxieux touchent quand même 25 % des enfants. C'est énorme et c'est probablement la problématique dont on parle le plus actuellement, celle qui a le plus d'impact. Et c'est une des rares problématiques en santé mentale des enfants qui touche plus de filles que de garçons. Mm-hmm. Alors, vous voyez, c'est un petit peu là où on en est, mais je te dirais que la grande nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant de diagnostics associés. C'est-à-dire qu'on est en autisme aussi. L'autisme fait partie de cette famille de troubles que sont les troubles de la santé mentale. Alors, tu peux avoir un autiste qui a un déficit de l'attention, qui a des troubles anxieux. Tu peux avoir un jeune qui a un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est peut-être psychotique, qui lui aussi est anxieux, qui a des troubles de sommeil, qui a des troubles de l'alimentation. Alors, c'est difficile de voir quand ça devient une maladie, parce que la frontière est difficile à saisir entre un symptôme passager et un symptôme qui devient plus permanent. Et c'est aussi difficile de saisir les frontières entre tous ces troubles là, qui ont un tronc commun important. Et puis moi, je dirais de mon expérience personnelle de mère, plus que d'autres choses, que souvent, le tronc commun de tous ces troubles-là, c'est des difficultés de communication. Ça passe beaucoup par là. Et c'est au cœur de ça, bien sûr, la gestion des émotions, qui est presque... En fait, ça n'est pas inné chez ces jeunes-là, d'apprendre à gérer, à progresser avec leurs émotions.
En pratique, le parent, il commence à s'inquiéter quand? Quand son enfant dort mal, quand son enfant répond plus, parce que ça, c'est l'adolescence, là, on va s'entendre, ou Justin Bieber, un des deux.
Qui n'est pas une maladie, soit dit en passant.
Non, je sais, mais bon.
Ben, en fait, il faut apprendre à observer nos enfants, parce que grandir, c'est s'adapter. Et d'ailleurs, un autre des troncs communs, une autre des choses que ces enfants-là ont en commun, c'est une capacité d'adaptation qui est bien faible. Donc oui, mal dormir, mais pas tout seul. Faut observer les changements. Par exemple, un enfant qui aimait beaucoup, moi je sais pas, prendre son cours de danse, qui tout à coup n'a plus envie du tout de s'y rendre. Ça peut être un symptôme. Un enfant qui dort plus, donc, ou qui dort trop, ou qui dort moins. Un enfant qui mange moins ou qui mange trop. Un enfant qui évite les rencontres avec ses amis qu'il fréquentait puis qu'il aimait beaucoup et qui tout à coup commence à s'isoler. Un enfant qui s'inquiète tout le temps aussi, qui vous fait part de ses peurs d'à peu près tout ce qui l'entoure et qui a de la difficulté à bouger autour de ça. Quand il y a un ou plusieurs de ces situations-là qui se présentent dans la vie de l'enfant, je considère qu'il faut commencer là, à ce moment-là à se poser des questions et peut-être à aller consulter. Parce que tout de même, on parle d'un enfant sur cinq là, qui est atteint, qui souffre, en fait, qui vit
à peine
avec
quelques
ça, là.
Secondes. Alors, je ne voudrais pas terminer sans qu'on nous dise la fondation, elle est où? On la contacte comment et qu'est-ce qu'on peut faire?
Le plus facile, www.petittrésor.ca. On est sous le boulevard Perra, associé dans les mêmes locaux que l'hôpital Rivière-des-Prairies. Et ça va nous faire un plaisir de vous répondre et peut-être même de vous guider là, vers des pistes.
Merci, Mme Lauzon. C'est malheureusement tout le temps dont on disposait. On se donne rendez-vous pour une prochaine entrevue. Au revoir.
Merci. Bonne journée.